7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins, ce n'est pas Emmanuel Bastide mais Anastasie Tudiège, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui 13 février, c'est la journée mondiale de la radio et pour fêter cette journée, notre émission est en direct de l'UNESCO 7777. C'est grâce à ce chiffre que nous communiquons, les voisins. 7777 est le numéro du brevet déposé en avril 1900 par l'inventeur italien Guglielmo Marconi qui entre autres avancé a découvert le principe de la division des fréquences et avant cela a su réunir les travaux d'autres savants, le russe Popov, le français Branly et l'allemand Hertz pour inventer ce moyen de communication révolutionnaire grâce auquel nous pouvons nous entendre, la TSF, la transmission sans fil. Nous n'allons pas revenir sur l'importance et l'intérêt de la radio pour nous les voisins, pas nous, pas ici, pas aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur un certain type de radio, sur ces moments où la radio prend une importance cruciale en temps de conflit. Difficile de commencer une telle l'émission sans penser à nos confrères Joanne Sutton, morte en Afghanistan en novembre 2001, Claude Verlon et Ghislaine Dupont, disparus, vous le savez, au Mali en novembre 2013. Et pour parler de cette situation, de ce que c'est que faire de la radio en temps de conflit, quatre invités. Raphaël Kraft, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, fondateur d'une radio en Afghanistan. Vous avez également couvert la guerre en Yougoslavie.
J'étais appelé du contingent à la radio Azur FM à Sarajevo, mais j'ai couvert d'autres conflits, oui.
Et vous êtes l'auteur d'un livre passionnant dans lequel vous revenez sur votre création d'une radio et le livre s'appelle Captain Teacher, publié aux éditions Buchet-Chastel. Johnny Bisakonu, bonjour. Vous êtes journaliste centrafricain et vous avez contribué à créer, à fonder en Centrafrique quelques radios communautaires en période de conflit.
Dans le sud-est de la Centrafrique précisément, une zone à conflit avec la LRA de Joseph Kony. Et je suis centrafricain, vous êtes sans ignorer qu'en Centrafrique en ce moment il y a un conflit armé. Et en tant que journaliste radio, j'ai vécu la radio en temps de conflit.
C'est donc une chance pour nous de vous avoir aujourd'hui, Eduardo Olivares. C'est une chance aussi de vous avoir parmi nous. Bonjour.
Merci beaucoup.
Vous êtes responsable pédagogique de Planète Radio et la radio communautaire, vous aussi, ça vous connaît?
Oui, parce que la vocation de RFI Planète Radio, c'est justement de contribuer à cette communication de proximité que les radios communautaires rendent possible. Et on fait ça beaucoup en Afrique, mais aussi en Amérique latine.
Oui, au Chili, au Venezuela.
Tout à fait, oui.
Colombie, Bolivie, merci. Et Yves Laplume, de la Fondation Hirondelle. Alors, Yves Laplume n'est pas avec nous ici à l'UNESCO. La Fondation Hirondelle, pour ceux qui l'ignoreraient, depuis plus de 20 ans, contribue à créer des radios libre dans les zones de conflit, comme la radio, la célèbre radio congolaise Okapi. Bonjour Yves Laplume.
Oui, bonjour.
Vous avez dirigé Radio Okapi d'ailleurs pendant 3 ans.
Absolument, de 2004 à 2007, au moment des premières élections libres et indépendantes, et dans un contexte assez, on va dire, conflictuel, puisqu'il a fallu dormir au moins 8 nuits à la station, alors que ça tirait un peu de tous les côtés.
Et vous êtes avec nous, Yves Laplume, en duplex depuis Bayonne, grâce à France Bleu Pays Basque. Un grand merci à nos confrères.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Messieurs, la radio est un média qui porte le secours dans son ADN. Marconi, dit-on, a voulu créer la communication sans fil pour pouvoir aider les marins en détresse, pour qu'ils puissent se signaler. Qu'est-ce qui caractérise les émissions, l'émission de radio en temps de conflit? Eduardo Olivares, je commence avec vous. Ensuite, j'aimerais entendre votre point de vue, Yves Laplume.
Et je voudrais dire tout de suite qu'il est évident que quand il s'agit des radios communautaires, on est dans un domaine où les spécificités générales de la radio deviennent très particulières.
C'est-à-dire
que la radio communautaire étant dans l'idéal une sorte d'émanation devenue radio de la volonté et du besoin d'une petite communauté de s'exprimer, de se connecter, d'avoir un lien. Et en cas de conflit, cette communauté, à différence de ce qui peut se passer ailleurs, est au courant parce qu'ils sont tous près les uns des autres. Et à ce moment-là, la radio ne va pas être tellement un organe d'information parfois, mais plutôt des sensibilisations, plutôt de...
Donc, du coup, l'idée, ce n'est pas, quand on parle de radio communautaire, ce n'est pas d'avoir des nouvelles, mais de se tenir informé de l'immédiateté des choses.
Des informations, il y aura besoin toujours.
Bien sûr.
Mais sans aucun doute, la radio communautaire étant au milieu d'une communauté, comme on l'indique, elle joue un rôle social, elle est beaucoup plus active, elle est plus en relation avec les gens, et il contribue donc beaucoup plus à la sensibilisation, à faciliter même les échanges entre les uns et les autres, à faciliter des dialogues qui parfois, dans la réalité, sont interrompus.
Sont difficiles. Raphaël Kraft, les caractéristiques pour vous de la radio en temps de conflit?
Je crois qu'il y a mille et une, il y a mille et un types de conflits. Il y a ça dépend de l'intensité. Si on se trouve dans une situation où c'est une guerre totale, on va d'abord proposer des services aux auditeurs, c'est-à-dire quand passer les checkpoints, où trouver de l'eau, la base.
Des informations cruciales.
Voilà. En ce qui me concernait, lorsque j'étais en Afghanistan, c'est donc une radio qui a été créée à l'initiative d'un colonel de la Légion étrangère, sans pour autant que ce soit une radio de propagande. Nous avions à cœur de faire communiquer les populations entre elles, donc de plusieurs communautés. C'était une radio communautaire, mais qui touchait trois ou quatre vallées antagonistes en Afghanistan. Et nous étions dans une zone où la bande FM était complètement vierge, et c'était le seul moyen d'information pour ces populations. Populations qui n'avaient pas accès aux journaux, où le taux d'équipement des ménages en télévision était extrêmement faible. Donc nous avions des missions multiples qui étaient à la fois d'informer, évidemment, sur la guerre en cours en Afghanistan, bien sûr.
Mais aussi sur l'immédiat, sur l'entourage immédiat.
Et également sur l'immédiateté, et puis apporter, et ça Yves Laplume pourra mieux nous en parler, les services de base, c'est-à-dire pallier à l'absence d'État dans une zone donnée. Je pense à la santé, c'est-à-dire inviter un médecin. Une mission qui n'est pas différente de toutes les radios communautaires que l'on va trouver dans les zones les plus reculées de la planète, en Patagonie, au fin fond de la jungle congolaise ou au milieu de l'Amazonie.
Yves Laplume.
Oui, alors, la Fondation Hirondelle a pour spécificité qu'elle crée des médias plutôt nationaux.
Absolument.
Même si on travaille avec des radios communautaires. Et en effet, ce qui vient d'être dit est un axe assez important dans les périodes de conflit. Les gens ont besoin de repères pour leur vie quotidienne, donc il faut le faire. Mais les fondateurs ont très vite compris, et ça a été une surprise pour eux parce qu'ils pensaient faire une radio, entre guillemets, humanitaire, que les gens qui fuyaient le conflit au Rwanda, puisque c'était ça l'origine, ils avaient besoin d'avoir de l'information. Information sur ce qui se passe chez eux, sur ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe dans la sous-région et même ce qui se passe dans le monde entier. En fait, quelque part, l'information, être informé, le droit d'être informé est quelque chose de vital et qui fait partie de la dignité humaine. Et c'est très rapidement que les fondateurs de la Fondation Hirondelle se sont rendus compte que l'information factuelle, sans commentaire, les services type santé, comme on vient de le dire, et le débat surtout, le dialogue, faire parler les gens, et c'est le triptyque un peu qui permet aux populations qui sont prises dans des conflits de pouvoir restaurer leur dignité, savoir ce qui se passe, en parler et du coup se faire leur propre opinion, parce que comme vous le savez, dans tous les conflits, la première victime des conflits, c'est toujours la vérité.
Johnny Bissakonou, ce que souligne Yves Laplume à l'instant, ce besoin que peuvent avoir les individus de communiquer, et qui est même synonyme, et c'est très fort et très important, il me semble, de souligner, qui est un aspect de la dignité humaine. Vous l'avez vécu aussi en Centrafrique?
Au sein de la radio Ndekeluka, qui est une station de la Fondation Hirondelle en Centrafrique.
Dans laquelle vous avez travaillé
il y a
quelques
temps. J'ai travaillé pendant 3 ans dans cette radio. On est confronté à ce besoin de la population d'avoir une information sûre, de savoir ce qui va se passer, d'être rassuré en quelque sorte, parce que les gens vivent dans une situation où les rumeurs courent les rues et on ne sait pas exactement ce qui va se passer le lendemain. Est-ce qu'il va y avoir une attaque? Et quand les gens écoutent une information à la radio, ils sont rassurés, ils savent, ils peuvent faire confiance à la radio.
Et donc, puisqu'on parle de conflits en Centrafrique, un voisin musulman d'un chrétien, quand il va entendre à la radio que son voisin musulman, au fond, veut la même chose que lui, ça devrait, disons, faire ranger les machettes. Et on se rend bien compte que ça n'est pas forcément le cas.
Ce n'est pas forcément le cas. Et justement, les journalistes sont confrontés à ce problème où ils sont pris au milieu d'un conflit où chaque camp voudrait montrer, parce qu'il y a la CPI qui enquête sur les crimes en Centrafrique, chaque camp voudrait montrer que c'est l'autre camp qui a plus de massacres à son actif. Le journaliste, son travail étant de relayer les informations, de relater les faits, il se pose un problème où si le journaliste donne une information sur une attaque, un massacre d'un camp, la Séléka par exemple, eh bien, les pro-Séléka vont dire « Mais pourquoi vous ne parlez pas des crimes des anti-Balaka ?» Et donc, du coup, le journaliste est tout de suite menacé. On voudrait que vous parliez plus des massacres de l'autre camp. Et à ce moment, le journaliste doit pouvoir travailler avec beaucoup de tact pour ne pas se mettre à dos un camp ou un autre. Et donc, du coup, dans le contexte centrafricain, la radio Ndekeluka a connu ce problème. À un moment, il y a des gens qui ont commencé, parce que les journalistes radio, ils sont en concurrence avec des gens qui sont animés d'intérêts partisans et qui publient des choses sur les réseaux sociaux, sur Internet.
Denis Vissette, nous, cette place du journaliste et comment il se place par rapport justement aux belligérants, j'espère que vous continuerez d'en témoigner tout à l'heure. Mais tout de suite, on peut se demander si le rap ne serait pas le genre par excellence pour la radio, puisqu'il allie la musique et les mots parlés. Faites-vous votre idée, les voisins, tout de suite. C'est le MC de Seattle, il s'appelle Raz Simone, et ça s'appelle Swim Away.
It's 8 a.m. and I'm hungry as fuck, so I walk up the street to the grocery store, pass up the Starbucks, because a cup of coffee can't fill my cup, and a cup of coffee can't fill my stomach up. Plus, regardless, I don't even like the taste, and the hunger in my stomach is more than enough to keep me awake. So even if I eat this food that I took time to choose and make, I still have that same hunger, cause that hunger cannot be replaced. But everyone else at the table is full, I cannot relate. They have some kush that smells great, they wrote it up before we ate. I still have food up on my plate, so I macerate sitting up straight. But they slouched on the couch, blowing that ounce to the face, and they continue to blow till the ounce turns to an eighth. And then it's me that they thank, because the house supply been dank. So even when I'm just sitting, there are still moves that have been made, but they lose and I take. And they feel different, so they feel great. Nah, for a few minutes to an hour, depending on how strong the diesel was up in that sour. But they know that I got that power, so they stay down for some hours. Then they turn the TV on, it took them a minute to find the power. I walk to the window, watch the wind blow the rain shower. Feels like a life-size fish tank, but I'm in my tower. I wave, it's been fun, but I really have to go. This tank we call the sea is too small for me to grow.
It's never too cold, but never too sunny. So there's rainbows in the clouds. When the rain blows, I'ma swim away. I'ma swim away. I'ma swim away.
I'm so different from these niggas, they probably laughing at the course. Instead of doing something different, they do the same shit. Boring, it's raining, it's pouring. The old man is snoring. They're on that nursery rhyme shit. I'm on that Maury. Who that baby's daddy? It's unfortunate that they were born weak, born meek. Lazy enough to follow, but too scared to lead. If they could, they would let somebody else walk in their feet. Don't even feel comfortable laying on skin, so they take a sip of that weed. And then they're gone, moving at a Seattle speed. That's slow-mo, that's hella deep. Faster than that screw, but too slow for a city. I can't live another year here when time is my enemy. Cause then you take that year and divide by at least 3 times. And that's how many years would have gone by in the New York state of mind. So why is the state of mind behind? I'm trying to get to the bottom of the line, but everyone else is trying to climb. You know how the crabs in the bucket go. So it's being real and I love my home, but I think you already know I really have to go, because this tank we call the sea is too small for me to grow.
It's never too cold, but never too sunny. So there's rainbows in the clouds. When the rain blows, I'ma swim away. I'ma swim away, I'ma swim away. It's never too cold, but never too sunny. So there's rainbows in the clouds. When the rain blows, I'ma swim away.
Simone, ça s'appelle Swim Away. Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Et aujourd'hui, les voisins, nous sommes en direct de l'UNESCO pour la radio, la journée mondiale de la radio, avec quatre invités. L'un est à Bayonne, Yves Laplume de la Fondation Hirondelle, qui a dirigé la radio, la célèbre radio congolaise Okapi. Et puis trois hommes de terrain aussi autour de la table, Raphaël Kraft, Johnny Bissakonou et Monsieur Olivares. Nous parlions avant la musique de ses caractéristiques propres à la communication en radio. En temps de conflit, il est très difficile de prendre de la distance face à son sujet. Quand on est journaliste, ça peut être compliqué. Ça l'est encore plus en temps de conflit. Comment on s'en tire ? Est-ce que le fait de ne pas avoir la même nationalité que le conflit que l'on couvre peut aider ou au contraire être un handicap ?
Je vais encore, cher Anastasie, marquer un peu la différence de la situation de la radio communautaire.
Oui.
C'est-à-dire que très souvent, dans la radio communautaire, la distance que nous connaissons dans notre métier habituellement, journaliste réalité, la prise de distance, etc., elle est beaucoup plus courte, étant donné que ceux qui font l'information, ces journalistes-là, souvent formés sur l'État, font partie de la communauté et à laquelle ils servent, pour ainsi dire,
avec ils sont les porte-voix.
Ils en sont les porte-voix. Donc, même les questions qu'évoquait Jenny à propos de la difficulté du journaliste d'être objectif n'est pas...
Ce tiraillement entre les deux pôles.
Il devient beaucoup plus difficile. Mais il est évident que là, il y a des notions de sérieux, de professionnalisme, de respect de la vérité qui sont importantes de respecter, de travailler. Le fait que ces radios soient différentes n'empêche pas le fait que la vérité est toujours essentielle, le fait qu'il est important que tous les partis puissent s'exprimer et que ça puisse effectivement contribuer à apaiser et à refaire revenir la paix là où le conflit est très fort.
Yves Laplume, quels sont les appuis sur lesquels le journaliste en temps de conflit peut s'appuyer, peut compter, et au contraire, quels sont ses ennemis? Ou bien tout simplement les éléments ou les individus dont il doit se méfier. Je ne parle pas évidemment de ceux qui en veulent à sa vie, mais
oui,
pour ce qui est de la transmission de la vérité.
Encore que ça arrive, nous avons eu à déplorer deux assassinats au Congo en 2007 et 2008. D'abord, précisons que la Fondation Hirondelle ne prend pas le micro, ce sont toujours des journalistes locaux. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Johnny avec qui j'ai travaillé et qui était très populaire à Bangui. Ce sont toujours des journalistes locaux. Donc nous n'intervenons que dans l'encadrement et justement pour permettre à ces journalistes d'exercer normalement leur travail, de montrer les limites qui sont les leurs pour éviter d'être des cibles. La première, c'est s'en tenir au fait, ne jamais faire de commentaires, parce que dès qu'on commence à faire des commentaires, on donne son avis, donc on se met à dos déjà une partie de la population qui évidemment est polarisée. Jamais de commentaires, mais au contraire promouvoir le débat. Et si les journalistes se tiennent véritablement à ce principe de base, hein, qui est d'établir des faits, de les vérifier plusieurs fois au besoin lorsque
alors
c'est
possible. Alors justement, Yves Laplume, comment on vérifie plusieurs fois des faits quand on est quasiment bunkérisé dans son studio et qu'on a du mal à circuler librement dehors ?
Excellente question. Et il y a une grande chance, c'est le téléphone mobile. Parce qu'il est accessible partout maintenant dans tous les pays, quasiment au fin fond de l'Afrique, vous pouvez téléphoner. Et je me souviens, par exemple, lorsqu'il y avait eu une attaque des milices de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa, où c'était, je ne sais plus si c'était la garde présidentielle, évidemment, nous étions enfermés, mais nous avons pu... parce qu'on avait des collègues un peu partout chez eux, en fait, et puis des connaissances sur le grand boulevard du 30 juin, les appeler, recouper les informations de gens qui ne se connaissaient pas et établir le fait que c'était, en fait, la prise par, si ma mémoire est bonne, en fait, oui, de la télévision et de la radio Jean-Pierre Bemba et non pas une insurrection nationale, voyez. Et c'était très important pour nous d'établir
Yves
ce fait-là.
On se retrouve tout à l'heure, nous devons nous interrompre pour le flash, je vous prie de m'excuser. On se retrouve dans 3 minutes.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
7 Milliards de voisins en direct de l'UNESCO pour la Journée mondiale de la radio et quatre invités pour évoquer ce média allié du quotidien, encore plus en temps de conflit. Raphaël Kraft, Eduardo Olivares, Yves Laplume en duplex depuis les studios de France Bleu Bayonne et Johnny Bissakonou, journaliste centrafricain. Avant le flash info, Yves Laplume, je vous posais la question de la vérification des sources, la vérification des informations qui est la base du métier de journaliste, mais qui est un peu compliqué quand on est confiné dans son studio et que ça tire dans tous les coins dehors.
Voilà, oui, je vous disais qu'en fait, ça nous est arrivé, et ça nous arrive très très souvent.
Et ça continue d'arriver.
Et ça continue, malheureusement. Le téléphone mobile, la révolution, j'allais dire, du téléphone, et bien au secours du journaliste, j'allais dire, parce que vous avez des gens qui... On peut les appeler. Vous avez forcément des collègues qui n'ont pas eu le temps de venir au travail, par exemple.
Et qui donc sont
donc
sur
chez
les
eux, ils peuvent témoigner. Et puis vous pouvez effectivement, vous avez des carnets d'adresses comme tous les journalistes du monde entier. Et donc vous pouvez appeler des autorités, qu'elles soient du gouvernement, que ce soit des autorités religieuses, etc. Donc vous faites votre travail normalement grâce au téléphone mobile.
Raphaël Kraft, est-ce que ça peut aider de ne pas être de la même nationalité, voire ne pas être de la même couleur que les gens dont vous relayez l'actualité ?
Alors, comme Yves Laplume le précisait, pour Radio Hirondelle, moi je n'intervenais absolument pas à l'antenne, je n'ai fait que aider des Afghans. Pashtun, en l'occurrence, a créé une radio.
Vous ne l'êtes pas vous-même.
Elle est formée au journalisme. Je n'ai fait que leur apporter des outils techniques. J'apportais une aide technique, et à savoir les bases du journalisme, etc. En même temps, je me suis vite rendu compte dans l'élaboration des émissions que l'on ne pouvait pas faire de la radio en Afghanistan dans une zone reculée comme on le ferait en Centrafrique ou au milieu de la France. Et notamment, c'est posé les problèmes des subventions, etc. Puisque pour obtenir des subventions, il fallait remplir certains critères, place de la femme, etc. Mais on ne pouvait pas, tout simplement, avoir des femmes à l'antenne sur notre radio.
C'était inenvisageable. Ceux qui vous écoutent l'auraient mal pris.
Voilà, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter et tenter, par des petits moyens, d'habituer les gens à entendre des voix féminines, etc.
Alors, comment vous y êtes pris ?
Eh bien, on a commencé par interviewer des femmes dans le cadre de leur métier, des infirmières, des femmes politiques.
Quelle réaction avez-vous reçue ?
Les réactions étaient positives. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de réaction en quelque sorte. Et ensuite, à recueillir petit à petit des témoignages par téléphone, puisqu'on a créé une libre antenne qui permettait aux gens d'appeler. Et là, certaines femmes nous appelaient, mais en secret.
De leur mari, frère, famille.
Voilà, elles s'enfermaient dans la salle de bain ou dans les toilettes pour pouvoir dédicacer une chanson à l'être aimé ou ce genre de choses. Et ensuite, quant au journalisme tel qu'il se pratique dans une vallée reculée d'Afghanistan, il est évident que le taux de corruption est très important.
Les élites.
Comment ça, évident ?
Vous dites il est évident que le taux de corruption est important.
Non, j'ai pas dit qu'il est évident que le taux de corruption est important. Il se trouve qu'en Afghanistan, dans une vallée reculée dans laquelle nous nous trouvions, le taux de corruption est très important. Et je crois que c'est une généralité en Afghanistan, malheureusement. Comme c'est une radio communautaire, que ce journaliste qui va interviewer le gouverneur, qui va interviewer le chef de la police, eh bien, il est voisin du gouverneur ou du chef de la police. On ne peut pas faire un journalisme offensif tel qu'on pourrait le faire.
Il ne va pas lui poser des questions qui dérangent.
Voilà, donc c'est toute une petite mayonnaise qu'on essaie de monter petit à petit. Et je pense que Johnny est d'accord avec moi. Il y a des questions qu'on ne peut pas poser. Et c'est petit à petit que la culture de la démocratie, la culture du dialogue, effectivement, se crée petit à petit.
Johnny Bissakonou, est-ce qu'on peut être un bon journaliste en étant du même pays que les belligérants, un, et deux, en posant des questions qui ne dérangent pas ?
D'abord, il faut savoir qu'une réputation, ça se crée. Et en la matière, Radio Ndekeluka, dans laquelle j'ai travaillé, a pu, à un certain moment, gagner la confiance de la population centrafricaine, en sorte que les gens disent... Pour qu'on confirme une information, il faut que ça soit dit sur Radio Ndekeluka. Et donc, quand vous faites de la radio dans un contexte assez difficile où les gens, où la corruption règne, où il y a un climat de méfiance et tout, il faut arriver au fil à créer ce climat de confiance entre les journalistes et
Mais alors, comment vous faites? Typiquement, vous êtes centrafricain, on va forcément essayer de traduire, de déceler à travers vos mots si vous êtes pour les chrétiens, pour les musulmans, pour une faction ou pour une autre.
Justement, et c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, cette vision manichéenne de la situation en Centrafrique, cette bipolarisation du conflit chrétien versus musulman, fait en sorte que le journaliste doit donner l'information avec beaucoup de prudence pour préserver sa neutralité, son objectivité.
D'accord, donc votre outil, c'est la neutralité.
La neutralité, et comme l'a si très bien expliqué Yves Laplume, Radio Ndekeluka s'interdit tout commentaire, on s'en tient aux faits. Et quand vous donnez les faits, rien que les faits, et des faits qui peuvent être vérifiés, à ce moment, les gens vous font confiance. À ce moment, les gens peuvent se dire, mais finalement, ils n'ont fait que dire ce qui s'est passé.
Johnny a jeté le mot, un mot important, un mot d'angle, une pierre d'angle quand on fait ce métier de journaliste radio. Édouard Olivares, confiance?
Oui, ça, sans cela, rien ne marche. De toute façon,
Plus particulièrement quand on
bien sûr, bien sûr. Et les radios communautaires, elles sont doublement en besoin de cela parce qu'elles dépendent souvent matériellement des gens qui les écoutent. Les auditeurs des radios communautaires sont souvent beaucoup plus que des simples auditeurs et souvent ils portent la radio. Je pense notamment, et puis Raphaël parlait tout à l'heure des questions dans les régions isolées, des questions par exemple matérielles, des questions pour faire marcher la radio, les questions d'énergie notamment. Souvent, les questions d'énergie sont résolues grâce à l'apport de la population. Les gens ne vont pas participer à faire marcher, à faire vivre une radio s'ils n'ont pas une confiance basique, s'ils n'ont pas une adhésion et je dirais, des bases à ce qui se passe dans cette radio. Et donc, la création de cette confiance, elle est un travail quotidien, et d'avoir que les gens aient confiance dans l'utilité, pas seulement dans la vérité, dans l'utilité, dans l'intérêt que la radio peut leur apporter quelque chose pour mieux vivre. Et bon, je ne vais pas répéter ici la grande vérité qui consiste à dire que la confiance est quelque chose qui est très difficile à créer et très facile à perdre. Donc c'est un travail et c'est un grand défi, surtout comme vous disiez tout à l'heure, lorsque les gens qui font la radio font partie eux-mêmes de la communauté, sont très impliqués. C'est difficile de déceler l'émetteur du récepteur.
Raphaël Kraft.
Oui, je voulais dire par rapport à ce qui était dissible à la radio.
Oui.
Nous, on s'est vite rendu compte que dans cette vallée afghane, la jeunesse n'avait pas voix au chapitre. Et que par les milliers de courriers qu'elle nous envoyait, elle voulait s'exprimer.
Des milliers de lettres?
Oui, des milliers de lettres. Oui, des milliers de lettres. Et donc on a vite créé des émissions pour qu'elles puissent s'exprimer. En même temps, lorsqu'il s'agit de parler de sexualité, lorsqu'il s'agit de parler d'amour, lorsqu'il s'agit de parler de la chape communautaire ou de la chape parentale, on ne peut pas le faire de façon factuelle. Donc nous avons créé des émissions de poésie. Nous avons créé des émissions de feuilletons radiophoniques. Nous avons créé des émissions d'humour. C'est-à-dire que nous avions chaque semaine un jeune Afghan qui venait faire... le comique à l'antenne pour pointer les problématiques liées à cette société. Et ça a été un très bon moyen justement de donner la parole à cette jeunesse qui ne l'avait pas en temps de conflit.
Au fond, ce que vous nous dites, Raphaël Kraft, c'est que la contrainte du conflit est un peu comme la contrainte de la censure dans les années 50. Au fond, elle oblige le journaliste à développer une forme de créativité qu'il n'aurait peut-être pas dans un pays où, il n'est pas contraint.
Exactement, et comme le faisaient les journalistes polonais sous le stalinisme, on emprunte à la littérature, beaucoup.
Johnny Bissakonou.
C'est ce qu'on fait, même en Centrafrique, donner la parole aux auditeurs, dans plusieurs émissions, mettre l'accent sur les vox pop, mettre l'accent sur des émissions interactives, donner la parole aux gens, à la population elle-même, de pouvoir s'exprimer.
Mais alors, typiquement,
sur des...
Vous tombez sur un auditeur particulièrement vindicatif face à l'autre camp. Comment vous réagissez ?
c'est là tout l'intérêt de, d'être très prudent, de pouvoir filtrer ce qui doit passer à la radio. C'est plus difficile quand on fait des émissions en direct au téléphone, et ça, en temps de conflit, on essaie de moins en moins de le faire. On privilégie les vox pop qui peuvent être montés à l'avance. Mais concrètement, il faut pouvoir donner la parole aux gens, et nous, on s'en tient aux faits. On donne les informations, mais dans les émissions, on donne beaucoup plus la parole aux auditeurs de s'exprimer sur les sujets de société.
7 milliards de voisins, qu'est-ce que c'est que de faire de la radio en temps de conflit? C'était la voix et le témoignage de Johnny Bisakonu, l'un de mes quatre invités. Tout de suite, c'est la musique d'un Zeus, un Zeus noir, oui, oui, ça existe, sud-africain, rappeur, lui aussi, ça s'appelle Psyche.
This is my house, and I'm renting out the few shacks.
Oh shit, my sugar's really sweet. I haven't got nothing, I'm super crazy.
Mosugile, Bamonule Saga. Is that a black problem? We throw money, solve them. More money, more problems, calling. Mang, mang, bunny, bunny, kai, kai, spoiler. Lifestyle boss, push a top dollar. Beats on my tunis, sad day, wanna haul. SS, Marinche, Pila Grand. Let's just say, let us saga got the grand. Oh, grand, I'm a Nazi boy. Welcome to Africa, the party boy. My politiki buddy tend to make the party go. Wow, wow. Can I also rock a bougie style? Usha, bana, bana, tangwan. Uba bone kama bila tete kankan. Marino span, jelo muri. Kana memo bete, ritu gile fru.
Scott feeling, I'm a divorce. Asimo speed, Scott feeling, I'm a divorce.
Asimo speed. It's one of the problems with your generation.
We also had that. No one do a call, man. We swear I'll be a pusher. I'm a Porsche. I'm a Louis Vuitton.
Skansangel, pop off for one papel. I tell Gatel, I shot the go Rachel. Call yourself this, that mismatch. Puffer with a stolen swag. Get back, gangsta, gangsta, who the TV wanna be. Don't try so hard, take it easy, mon ami. Le rato foster, me wanna cost. Banwa di hot stop, whole gang post up. Tona di baga mo strateng, kai potsa gateng. Botsa ka lene ka metsogo mo dipateng. Ba re tsatsa ba re gata gata mo dipateng. What a hustle up, tell us up. What's your occupation? You based on what location? Short conversation. You know what irks me? Levels are thirsty. Wanna get our money, but ain't put it in the work, see? It's all easy, they saw it on TV. Now they think that success is a freebie. Well, nothing for my holler.
On ne saura jamais suffisamment remercier ce cher Guillermo Marconi. Nous étions en Afrique du Sud sans avoir quitté Paris grâce à lui. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio et nous sommes en direct, les voisins, depuis l'UNESCO avec mes quatre invités, Yves Laplume à Bayonne, et puis autour de la table, Eduardo Olivares, Raphaël Kraft et Johnny Bisakonu, tous des hommes de terrain, des hommes qui savent justement ce qu'est ce métier de journaliste. Que faire de la radio en temps de conflit. Yves Laplume, vous avez entendu le témoignage de Raphaël Kraft sur, et des deux autres invités sur les stratagèmes qu'il faut savoir parfois mettre en œuvre pour bien passer à travers les mailles de la censure.
Oui, alors écoutez, à partir du moment où vous établissez des faits, c'est difficile de les nier. Alors on fait quand même très attention à ne pas nécessairement diffuser tout ce qu'on sait, dès lors que ça pourrait déclencher des drames plus importants que ceux qu'on pourrait dénoncer.
Déjà.
Tous les jours, si vous voulez, à la conférence de rédaction, lorsque les journalistes se réunissent et qu'ils choisissent un sujet et un angle, ils font très très attention à savoir quelles seraient les conséquences de la diffusion d'une information. Donc on n'est pas totalement des têtes brûlées, on fait très attention aux responsabilités qui sont les nôtres, notamment lorsque nous sommes, les radios les plus écoutées. On a une influence très importante. Mais à chaque fois, si vous voulez, moi j'ai pu avoir, en tant que responsable sur place, des autorités qui m'appelaient en me disant « Ouais, vous avez diffusé ci, vous avez diffusé ça. Oui. » Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Si c'est vrai. Alors voilà, maintenant vous pouvez venir vous expliquer. Le micro sera ouvert, il y aura de façon équilibrée un débat, ce qui fait que l'information est toujours liée à un débat quotidien. Et c'est ça qui d'ailleurs a renforcé la confiance des auditeurs et qui leur permet aussi de s'exprimer, comme disait Johnny en direct. Pouvoir que les auditeurs puissent s'exprimer, évidemment avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les paroles de haine à l'antenne.
La liaison n'est pas très bonne. Nous allons essayer de la rétablir, Yves Laplume. Au fond, ce que dit Yves Laplume, la radio peut véritablement être un instrument de paix, messieurs. Et en même temps, les conflits continuent. Et les radios aussi, Edouard Olivares.
Oui, de toute façon... Je pense que dans le cas des radios communautaires, en tout cas, c'est évident que renforcer le lien social, renforcer une vie meilleure pour tout le monde est l'essence même de la radio communautaire. C'est-à-dire, si elle naît pour autre chose, il vaut mieux qu'elle reste dans les tiroirs. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, contribuer à générer des dialogues qui autrement ne se font pas, à faire sentir les différents points de vue. À montrer même qu'il est possible de discuter, de dialoguer sans s'entretuer, c'est un rôle essentiel qui donne tout son sens au travail des radios communautaires. Je ne reviendrai pas sur ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire l'imagination qu'il faut développer pour créer des formats, des façons de parler. Parce qu'on a l'impression que la seule façon de dire, c'est on les enfants ou un compliqué. Il y a 3 milliards de façons de dire. On a ici des feuilletons,
des poésies.
Parler à un moment du rap, s'il fallait pas peut-être faire du slam, du rap, etc., comme une façon de se communiquer qui soit moins connotée, qui soit même souvent plus à la portée des gens, de tout un chacun, qui n'est pas rédigé une fois, mais qui sait lire un conte, ou dire un conte, lire une poésie, chanter une chanson, et dire tout pareillement plein de choses, mais autrement et de façon peut-être plus apaisée et apaisante.
Pour chacun de vous, qu'est-ce qui pourrait, dans avec votre expérience de terrain et de conflits et de tensions, qu'est-ce qu'on pourrait importer, nous journalistes qui ne travaillons pas dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là ? Qu'est-ce qui pourrait servir à nous, je dis ça qu'on nous, sous la recherche de la vérité et la vérification des informations, bon, c'est la base commune, mais de quoi on pourrait s'inspirer pour faire la meilleure radio par ailleurs ?
Moi, je pense d'abord que quand on travaille dans ces zones à conflit, on fait ce que moi j'appelle de l'information humanitaire. Au même titre qu'il y a l'aide humanitaire, il y a ce qu'on appelle information humanitaire qui permet de désenclaver une zone. Par exemple, le sud de la RCA, qui est une zone coupée du reste du pays.
Voire du monde.
Oui, il n'y a pas de connexion à Internet, pas d'électricité, pas d'eau courante. C'est une zone qui a besoin qu'on parle d'elle, qui a besoin qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme et attirer l'attention du monde sur la zone pour permettre, par exemple, que la communauté internationale se mobilise pour être au chevet de ces populations. Il faut donner la voix à ces populations. Et quand on fait ce métier, On arrive donc dans une zone qui a une particularité, qui a ses coutumes, et il faut faire avec quand on recrute des personnes localement qui ne sont pas à la base des journalistes, mais qu'on forme au métier de la radio pour pouvoir pour travailler dans ces radios. Moi, j'ai eu le même problème que Raphaël quand il fallait faire intervenir des femmes peules à la radio. On m'a dit impossible, tu ne peux pas approcher nos femmes.
Et vous avez pu le faire quand même.
Je suis passé par des jeunes femmes qui ne sont pas musulmanes, mais qui pouvaient en tant que femmes approcher ces femmes peules, qui pouvaient leur dire venez juste poser vos voix parce qu'on a besoin, comme c'est une radio communautaire, que toutes les couches sociales soient représentées. Et donc, on fait avec l'expérience de terrain, on fait avec chaque particularité. Le conflit centrafricain n'a rien à voir avec le conflit dans le sud-est de la RCA qui concerne la LRA. Et quand moi, j'installe des radios communautaires dans le sud-est de la RCA, c'est pour faire ce qu'on appelle le common message.
Mais la question, c'est comment on peut s'inspirer du journalisme en temps de conflit quand on ne travaille pas en temps de conflit, justement. Raphaël Kraft.
Écoutez, moi, quand je vais dans un pays étranger, je songe toujours à ce très beau livre de Abdourahman Waberi, l'écrivain djiboutien, Les États-Unis d'Afrique.
Pourquoi ?
Parce que je fais toujours très attention à ce que je fais. Je me dis toujours que je suis un Africain directeur d'une ONG en France et que je... Voilà, c'est cette question. Abou Ahmad Ouaberi tourne les États-Unis d'Amérique sur les États-Unis d'Afrique. On envoie des casques bleus qui viennent réprimer ou qui viennent tenter de trouver une solution à des indépendantistes bretons. Donc, je sais pas, on pourrait par exemple inviter des ONG africaines à Marseille, monter une radio à la Castellane et peut-être voir ce qu'elle pourrait proposer aux auditeurs.
Alors, ce dont on pourrait s'inspirer, c'est ça, faire plus de place à l'autre.
C'est un peu provocateur ce que je dis, mais je crois qu'il faut faire attention à l'autre, effectivement. Il faut faire attention à ne pas avoir de point de vue occidental, ni occidentalisant.
Ou ni ethnocentré, au fond.
Ethnocentré, être respectueux des traditions locales, et surtout, oublier toute forme d'impérialisme quand on tente d'aider à la résolution d'un conflit par la voie de la radio.
Édouard Olivares, qu'est-ce que l'expérience du terrain en période de conflit peut apporter au journalisme de manière générale ?
Quelque chose qui me semble essentiel, moi, c'est le fait de tenir toujours présent que la meilleure communication commence non pas en disant, mais en écoutant. Et donc, lorsqu'on écoute nos auditeurs, et les radios communautaires sont obligés de le faire parce que la proximité est telle qu'ils ne peuvent pas. C'est probablement les gens de l'autre côté de la vitre qui sont les voisins sont là. Et donc, ils ne peuvent pas ne pas écouter. Donc, cette écoute-là, je pense que c'est une leçon qui est très importante parce que ça nous ramène de façon directe, de façon vivante, les besoins que les gens ont. La richesse qu'il y a chez les gens aussi d'informations, de façons de voir, des façons de dire, etc., qui, aussi brillant qu'on puisse être un journaliste, ne pourra pas toujours imaginer tout seul. Donc c'est en cela que la communication communautaire est richissime, non seulement parce qu'elle apporte dans des communautés isolées tout ça, mais aussi parce qu'elle peut se nourrir de cette richesse qu'il y a chez les gens qui sont avides, qui ont besoin, qui ont les difficultés dont on a parlé, les femmes qui n'ont pas...
Donc savoir se nourrir de la richesse de son biotope, de ce qu'il y a autour de nous.
Voilà, donc avant de commencer à débiter nos quatre vérités, écouter, être à l'écoute, et ça enrichit beaucoup en fait.
Yves Laplume, l'émission arrive vers sa fin. Est-ce que vous avez identifié, repéré des avancées technologiques qui pourraient aider les journalistes qui précisément travaillent en temps de conflit ?
Bah oui, bah je vous citais tout à l'heure la téléphonie mobile. De plus en plus, les opérateurs téléphoniques proposent des services clés 3G, etc. Donc vous pouvez même arriver, même si c'est très long, à transmettre des fichiers Internet. Donc on peut aussi récupérer des reportages montés de tous les coins du pays. C'est ce qui se fait quasiment dans toutes nos radios que nous opérons. Oui, la technologie va évoluer. Nous suivons très attentivement tous les projets, notamment de ballons chez Google et autres. L'Internet va arriver partout dans toute l'Afrique. Et donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, j'allais dire, pour l'information. Dès lors qu'elle je rebondis sur votre question d'avant, dès lors qu'effectivement, on fasse ça de façon extrêmement rigoureuse, sans commentaire. Et c'est ça, moi, je vais vous faire mon Gad Elmaleh, je rêve que le service public en France, que ce soit de la radio ou de la télévision, s'en tienne aux faits et pas aux commentaires.
Très bien, merci beaucoup. Raphaël Kraft, une avancée ou deux qui vous paraissent aller dans le sens du travail ?
Lorsque j'ai quitté l'Afghanistan, c'était au moment où la 3G arrivait justement dans les vallées où je me trouvais.
D'accord.
Et cette jeunesse qui n'avait pas la parole, parce que les médias sont contrôlés par des générations plus anciennes.
Et plus conservatrices.
Jeunesse a véritablement pu commencer à pouvoir s'exprimer à travers Twitter, Facebook, etc. Et c'est une véritable révolution qui est en cours.
Et ce sont des alliés de la radio.
Oui, et ça me rend assez optimiste.
Bon, c'est sur ce mot que nous allons nous quitter. Merci beaucoup Yves Laplume. Je rappelle que vous interveniez pour l'association Hirondelle. Merci à vous également, Johnny Bissakonou. Vous êtes journaliste centrafricain et plus que jamais nécessaire dans ce pays et puis aussi dans le monde puisque vous êtes un témoin de ce qui s'y passe. Merci Raphaël Kraft. Vous êtes l'auteur de ce livre dont je parlais au début de l'émission qui s'appelle Captain Teacher, une radio communautaire en Afghanistan, publié aux éditions Buchet-Chastel. Merci également à vous, Eduardo Olivares. On l'a compris, votre cheval de bataille, ce sont les radios communautaires partout dans le monde, en Afrique, mais aussi en Amérique latine. Merci donc, un grand merci à vous, les messieurs. Les voisins, comme toujours, passer cette presque heure avec vous a été un plaisir. Nous avons pu nous entendre aujourd'hui grâce aux héritiers de Marconi, que sont Romain Dubrac, Marc Fichet, Bertrand Éclair, Laurie Plisson et bien sûr Cécile Lavolo. Merci à l'UNESCO pour son accueil. Et merci également à France Bleu Pays Basque pour les moyens techniques mis en œuvre. Lundi, les voisins, vous retrouverez Emmanuel Bastide pour parler de la théorie du complot. Cette émission, vous pouvez la réécouter, la faire réécouter, puisque son podcast existe sur le site de RFI. Bonne journée à l'écoute des programmes de RFI. Retour à ici, les Moulineaux, pour le journal.